France Inter, franceinter.com.
Je vole comme un papillon, je pique comme une abeille. Devise de Mohamed Ali. Mille ans d'histoire. Rien ne distinguait Cassius Clay des autres gamins de la communauté noire de Louisville, où il est né en 1942. Élève médiocre et bagarreur du Nazareth College, il avait appris un jour qu'il portait le nom d'un général abolitionniste de l'armée des États-Unis, Cassius Marcellus Clay, qui, au 19e siècle, avait défrayé la chronique du Kentucky en affranchissant ses esclaves. Mais personne ne pouvait imaginer que sous le nom de Muhammad Ali, Cassius Clay deviendrait un jour beaucoup plus célèbre que son homonyme du 19e siècle. Un poids lourd dont le style incomparable et le tempérament allaient si profondément marquer l'histoire qu'aujourd'hui encore son nom est plus connu que celui de tous ceux qui l'ont précédé ou succédé au sommet de la hiérarchie de la boxe.
C'est le numéro 1 du noble art et peut-être le meilleur boxeur de tous les temps. Le match de Las Vegas qu'il opposa à Floyd Patterson, Clay est ici en culotte claire, mit une nouvelle fois en évidence l'agilité incroyable chez un tel poids lourd de ses jambes et la précision de son punch. On se demande qui pourrait à l'heure actuelle triompher de cette masse de muscles mobiles et redoutables. Patterson, malgré son courage, ne put à aucun moment faire figure de véritable challenger. Cassius Clay est devenu trop fort pour disputer un combat digne de ce nom.
Champ of the world! I'm the king of the ring! I'm the biggest thing in history! How they gonna dance? Float like a butterfly, sting like a bee.
I fly like a butterfly, I sting like a bee, je vole comme un papillon et je pique comme une abeille, disait Cassius Clay après chacune de ses victoires, comme celle qu'il avait remportée en 1965 sur Floyd Patterson, ce que vous rappelez, Patrice Lelorin, bonjour.
Bonjour.
Dans un livre, La légende de Muhammad Ali, qui a été publié dans la collection La Petite Vermillon. Alors, la légende, qu'est-ce qui fait la légende, justement, de ce boxeur dont le nom est plus connu aujourd'hui encore, alors 27 ans après qu'il ait perdu son titre, plus connu que celui d'autres grands poids lourds comme Joe Louis, comme Mike Tyson aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il avait de plus qu'eux?
Il a d'abord laissé une impression prodigieuse dans la première partie de sa carrière, mais c'est certainement... à partir de ça, mais sa personnalité hors du commun qui fait qu'on le retient aujourd'hui. Bon, c'est quelqu'un qui avait un sens aigu de la publicité, de l'autopromotion, et puis aussi qui a su grandir, devenir très humain, qui est toujours resté très digne, même dans l'adversité, même dans la maladie, et qui a, par ses prises de position, a su inscrire son destin dans l'histoire. Je vous dirais que souvent, les boxeurs ont un destin, une vie romanesque, et que lui, ça serait plutôt un roman historique. Il a su élever son personnage au rang de figure de son temps, figure de son époque.
Alors, une légende entretenue très tôt, vous rappelez, Patrice Lelorin, par exemple, qu'on dit que, ça fait partie de la légende, quand il avait un an, il avait cassé deux incisives de sa mère en lui donnant involontairement un coup de poing. On évoque aussi le fait qu'il découvre la boxe un peu par hasard. Il y a un vol de vélo et il va se plaindre auprès d'un policier qui va le prendre sous son aile.
Oui, le fameux Joe Martin, qui est aussi entraîneur, qui lui dit « Apprends d'abord à te battre avant de vouloir casser la gueule à tout le monde ». Il revient dans la salle, il se fait virer tellement il est insupportable, vantard. Mais il voit Joe Martin à la télé, et ça, la télé quand même, télé, publicité, ça lui plaît, parce que Joe Martin présentait les champions de demain. Donc, il est revenu à la salle, il est resté tout aussi vantard, tout insupportable, mais il était tellement doué qu'on l'a gardé.
doué au point d'ailleurs, 4 ans plus tard, de devenir champion olympique des 6 ans plus tard, hein, oui. C'était en 1960, champion olympique des poids lourds à Rome.
Des mi-lourds.
Des mi-lourds. Hein.
Des mi-lourds.
Ah oui, il n'était pas encore assez lourd.
Non.
Et il a, à ce moment-là, il devient professionnel. Et il y a un homme qui va jouer un rôle essentiel dans sa vie, c'est, et qui va le transformer un petit peu, c'est Angelo Dundee, hein, qui a été son entraîneur pendant une 20aine d'années.
Angelo Dundee, oui, ne l'a jamais quitté, oui. Ils ont essayé Archie Moore, mais ça n'a pas marché. Et quand je dis « il », il est issu de Louisville, hein, Cassius Clay à l'époque, qui était toujours Clay. Et donc, les hommes d'affaires de la ville, tout heureux d'avoir une célébrité, l'ont en quelque sorte couvé, managé. Et un certain Bill Faversham a fait un consortium. Ils l'ont pris sous leur aile. Ils ont essayé Moore et après, ça ne collait pas. Et ils sont allés chercher... Dundee, les frères Dundee d'ailleurs, il y avait Angelo et Chris, et tout le monde s'est installé à Miami, dans le gym de la 5e rue.
Et on va entretenir quand même quelque chose de très particulier. Tous ceux qui ont pu voir un match avec Cassius Clay ont été frappés par un style que n'avait aucun autre poids lourd à l'époque. Ce sont quand même des colosses, hein. Ils ont du mal à se déplacer. Alors lui, il danse littéralement sur le ring. Il reste, au lieu de se mettre en garde, il reste un peu les bras ballants. Il se contente d'esquiver. Il y a cette fameuse devise, hein, « Je vole comme un papillon, je pique comme une abeille ». C'est-à-dire quand il donne son coup de poing, c'était tout le style, au fond, Patrice Lalorin, de Mohamed Ali, enfin de Cassius Clay, il s'appelle encore comme ça.
C'est vrai qu'il a élaboré quand même, il a élaboré et harmonisé ses extravagances. Il a beaucoup copié Ray Sugar Robinson, qui est considéré comme peut-être le meilleur poids moyen de tous les temps. Mais il l'a adapté à son statut de poids lourd ou de futur poids lourd. Bon, il y a ajouté une garde basse, plus tard ce fameux pas d'Ali qui ne sert strictement à rien sinon à faire jubiler les spectateurs. Hein, de croiser les jambes comme ça, c'est juste prendre des risques. Oui, il a créé quelque chose avec un don qui était... on n'avait jamais vu un homme de ce poids se déplacer aussi vite et aussi longtemps. En même temps, c'est un poids lourd moderne. Quand vous disiez que c'était des colosses, oui, Liston était un colosse naturel, mais quand on voit par exemple Floyd Patterson, qui avait été champion olympique des poids moyens, aujourd'hui ça serait un mi-lourd ou un lourd léger. Vous voyez, c'est le premier des poids lourds vraiment modernes.
À partir de combien, de quel poids on devient poids lourd pour un mi-lourd ?
Aujourd'hui, parce qu'avant, on passait de mi-lourd à lourd. Hein, oui. Donc, c'était 78 kilos. Au-dessus de 78 kilos, à la limite, vous étiez un poids lourd. Aujourd'hui, c'est lourd léger, il y a lourd léger 86. Mais vous voyez, Floyd Patterson, quand il rencontre Ali, il n'a aucune chance. Mmh. D'abord, il est sur le déclin. Il s'est fait écrabouiller par Liston, 2 KO au premier round. C'est un combat plus que déséquilibré.
En tout cas, un style très particulier de Cassius Clay qui allait lui permettre de conquérir le titre de champion du monde des poids lourds au Convention Hall de Miami le 25 février 1964 contre le tenant du titre, Sonny Liston.
This bout, 15 rounds for the heavyweight championship of the world. The challenger, Cassius Clay. Clay. And his opponent, the heavyweight champion of the world, Charles Sonny Liston. Liston.
Cassius Clay s'approche de Sonny Liston. Le poing gauche dangereusement baissé. Je crois que c'est la fin, mesdames et messieurs. Cassius Clay, venez ici. Je suis le champion du monde. J'ai battu Sonny Liston et je n'ai que 22 ans. Je suis le plus grand. J'ai secoué le monde.
Et c'était le 25 février 1964 à Miami, Cassius Clay devenant champion du monde des poids lourds par KO technique devant le tenant du titre, Sonny Liston, à la 7e reprise. Je suis le plus grand, j'ai secoué le monde. Ce qui a aussi frappé tous ceux qui l'ont vu, Patrice Lalorin, c'était la vantardise de Cassius Clay. C'était presque parfois exaspérant.
Oui, il est, d'ailleurs, il était surnommé Big Muscle, la grande gueule. En fait, il était assez peu aimé. Alors, bien sûr, il jouait de ça pour promouvoir son image. Mais les Américains souhaitaient qu'on lui ferme sa grande gueule.
Ouais.
Évidemment, ce qui n'arrivait pas, parce qu'il était au-dessus. Au risque d'égratigner la légende, je dirais que la performance de Liston n'a pas été très convaincante.
Mais on a même dit parfois que ce match, surtout le deuxième, parce qu'il va confirmer son titre en battant à nouveau Liston, était truqué. Alors au match suivant, il est carrément KO sans qu'on voit même le coup de poing qu'il l'a rendu KO. Enfin, je parle de Liston. On a parlé d'un coup invisible. C'était très suspect, ces deux victoires contre Liston.
Mais Liston n'a jamais été un homme libre. C'est quelqu'un qu'on est allé chercher au pénitencier, qui était une force de la nature, qui a été sous la coupe d'un gang connu, qui était le gang Palermo Carbo, qui tenait la boxe par les couilles, avec l'aide de Jim Norris, qui à l'époque était président de fédération. Je veux dire que Liston était sans doute trop vieux, trop alcoolique, peut-être drogué, mais il était aussi très dérangeant. Il fallait qu'il s'en aille. Il offrait une image de la boxe vraiment désastreuse. C'était un authentique voyou. Et il y avait toutes les raisons qu'il s'en aille. Il avait un viol sur le dos. Il y avait aussi la perte d'influence de ses protecteurs.
Ouais.
À l'époque, Frankie Carbo était en prison. Jim Norris était destitué. Ses soutiens s'en allaient.
En tout cas, bon, il est battu par Cassius Clay, donc très, très vantard, on l'a dit, annonçant souvent à quelle reprise il enverrait son adversaire au tapis, se moquant d'ailleurs de ses adversaires. Vous citez par exemple, juste avant un match contre Doug Jones en 1963, Clay demande « Quelle taille as-tu donc, Jones ?»« Pourquoi ?» répond Jones. « Afin que je puisse reculer suffisamment quand tu tomberas. » Il passait son temps, effectivement, à se vanter, à se moquer, à insulter même ses adversaires, et notamment ses adversaires noirs, hein, c'est le moment où la boxe, où les noirs commencent à vraiment dominer la boxe définitivement. Et par exemple, Patterson, que Clay admirait beaucoup, il le traite de Oncle Tom.
Oui, mais il a toute sa carrière durant, il a essayé de déstabiliser ses adversaires noirs en les affublant du costume du traître, hein, de l'Oncle Tom, du nègre blanc, du pauvre type. Et bon, il distribuait les rôles et il se donnait le beau.
Parce que justement, il est en fait militant. C'est deux jours après sa victoire contre Liston qu'on apprend en fait qu'il s'est converti à l'islam. Il est dans les Black Muslims. Il va prendre d'abord le nom de Cassius X et puis ensuite de Mohamed Ali. Hein, il devient un peu une espèce de porte-drapeau de la cause des Noirs aux États-Unis qui à ce moment-là est en jeu justement dans les années 60. Patrice Lalorin.
C'est un grand choc. Champion du monde poids lourd à l'époque, c'est une personne extrêmement célèbre aux États-Unis. D'annoncer, c'est pas uniquement musulman parce qu'il est black muslim, mais les black muslims, c'est quand même une secte qui a pas très très bonne réputation. Font beaucoup de prosélytisme en prison. Hein, et c'est d'ailleurs Malcolm X qui va débaucher le jeune Cassius Clay par l'intermédiaire de son frère Rudolph d'ailleurs. Et Malcolm X lui-même avait été converti en prison puisque Malcolm X, comme vous le savez, était un souteneur. Et d'ailleurs, ça continue, même si les Black Muslims ont une énorme perte d'influence. On a vu que Tyson, quand il a été emprisonné dans les années 90, est ressorti avec un petit chapeau. Donc, et puis bon, comme rien ne dure avec Tyson, il n'est pas resté musulman. Mais si vous voulez, les Black Muslims avaient une réputation épouvantable.
En tout cas, Clay est devenu Mohamed Ali, ça scandalise évidemment toute une partie de l'Amérique, surtout lorsqu'en 1967, il s'oppose à la guerre du Vietnam, qu'il refuse de faire, ce qui lui fera perdre sa licence de boxeur et son titre de champion du monde, France Inter, le 1er mai 1967.
Cassius Clay, alias Mohamed Ali, avait reçu il y a quelques mois l'ordre d'accomplir ses obligations militaires. Objecteur de conscience et prêtre musulman, le champion du monde des poids lourds demandait par l'intermédiaire de ses avocats l'annulation de son appel sous les drapeaux. Le vendredi 28 avril, donc, Cassius Clay se présentait au centre de recrutement de Houston. Clay passait tous les tests moraux, intellectuels et physiques qui le déclaraient apte à servir. Mais il refusait alors de prêter serment et ainsi de revêtir l'uniforme de l'armée américaine. C'est alors que, avant même qu'un jugement soit rendu, plusieurs fédérations et organismes de boxe décidaient de déchoir Cassius Clay de son titre de champion du monde, toute catégorie. Ainsi, l'extraordinaire boxeur, invaincu depuis qu'il a commencé à escalader les cordes d'un ring, le vainqueur de 9 championnats du monde, était mis à l'index de l'histoire de la boxe.
Stand By Me, un titre très célèbre à l'époque et qui n'aurait aucune place dans cette émission s'il n'était pas chanté tout simplement. Vous savez par qui, Patrice Honorin ?
Je ne m'en doute pas du tout.
C'est Cassius Clay. Hein, c'est Cassius Clay lui-même.
Très bon qui comédien.
Vous le rappelez, chanteur et surtout, bien sûr, boxeur. Sauf que, justement, il cesse de l'être. Il perd sa licence en 67 parce qu'il prend position contre la guerre du Vietnam. Le Viet Cong ne m'a rien fait, dit-il.
Oui, il balance ça. Il dit « Moi, je n'ai pas de problème avec le Viet Cong ». Et c'est une phrase très, très forte parce que il assimile la couleur, hein, la couleur jaune et la couleur noire. Il la réunit dans le clan des opprimés. Et c'est vrai que, bon, on est en 67, en 64, débutent les bombardements massifs sur le Vietnam. On est au cœur de la guerre du Vietnam. L'opinion américaine n'est pas encore retournée, mais ça va se faire dans les mois qui viennent, pendant sa suspension.
Oui.
68, Mexico, les athlètes Tommy Smith, John Carlos et Bob Beamon qui lèvent leurs poings gantés vers le ciel, l'émergence des Black Panthers. Donc c'est vrai que là, il est complètement dans son époque et pendant sa suspension, l'opinion se retourne et il va devenir vraiment populaire.
Une suspension de 3 ans. Hein,
3 ans, 3 ans et demi. Oui. Athlétiquement, c'est un désastre parce que on l'a interrompu à 27 ans, 26 ans. C'est l'âge d'or d'un poids lourd. Hein. Donc, c'est oui.
Jusqu'à ce que le retournement de l'opinion, justement, fait qu'on lève cette suspension, on lui rend sa licence. Et puis alors, il essaye de redevenir champion du monde contre le tenant du titre en 1971, Joe Fazier. France Inter, Thierry Roland, le 9 mars 1971, commentant ce qu'on a appelé le match du siècle.
C'est vraiment un match digne de tous les superlatifs que nous avons vécu hier soir à New York. Sans doute le plus beau des championnats du monde poids lourd de l'histoire. En battant Muhammad Ali, Cassius Clay, le styliste, au point à l'unanimité des 3 juges, Joe Frazier, le battant, est resté à la fois champion du monde des poids lourds et invaincu. Devant le Joe Frazier d'hier soir, véritable force de la nature, peu de boxeurs, aucun boxeur peut-être ne serait resté debout. Pourtant, Ali, bien que battu et nettement battu, a réussi à terminer le match à la verticale et contre un tel bûcheron du ring, sans arrêt sur l'homme et dont la puissance des coups est inouïe. C'est là un très grand exploit.
Un terrible crochet du gauche qui a fait que Clay est allé au tapis. Clay qui n'en peut plus, qui n'a pratiquement plus de garde et qui encaisse encore une série qui s'accroche. Clay est véritablement KO debout. Clay ne sera pas champion du monde. Le comeback qu'il voulait faire, il n'a pas pu le faire. 2 secondes, 1 seconde, c'est la fin. Le championnat du monde est terminé.
8-6, 1 even for Frazier.
C'est la première fois, Patrice Lelorin, en 11 ans de carrière, que Clay était. Enfin, Clay. Mohamed
Ali.
Oui,
parce que Thierry Roland l'appelle Clay. Hein,
oui, il l'appelle encore.
Ça n'aurait pas plu.
Oui, oui. Enfin, au début, on a entendu Mohamed Ali. Bon, enfin, bref, Mohamed Ali ou Clay est battu. C'est la première fois, mais Thierry Roland insiste sur une chose sur laquelle vous insistez vous-même, il ne tombe pas. Il est battu au 15e round, au point, il n'est pas tombé alors qu'il a reçu des coups.
Non, il y a un knockdown, il se prend le crochet gauche, le célèbre crochet gauche de Frazier, il se redresse, il tient jusqu'au bout avec sa mâchoire cassée. C'est vrai que Mohamed Ali ou Clay est absolument célèbre pour ses esquives, pour sa vitesse. Mais il n'est pas de champion. Vous savez, Jacques Anquetil disait « Le champion, c'est celui qui sait souffrir plus que les autres ». Et Mohamed Ali, ça ne se voyait pas toujours parce qu'il ne marquait pas ce qui a été son drame aussi. Sauf qu'on lui pétait la mâchoire, comme là, ou comme l'a fait Norton. On ne voyait pas les coups. Mais il en prenait, bien sûr. Et, Et il a, c'était un homme d'un très très grand courage, une fermeté qu'on retrouve dans sa vie sociale. C'est-à-dire que quand il prend une décision, la décision, par exemple, de dire son refus d'incorporation, après on lui a proposé de...
Ça lui a coûté très cher.
On lui a proposé, bien sûr, des arrangements, de se dédire à moitié. Et là, c'est un homme qui est quand même très très ferme, ouais. Sans compromis. Donc voilà, c'est bien sûr que c'est un. Il n'y a pas de champion qui ne sache se surpasser. Il n'y a pas que l'aisance, il n'y a pas que la facilité.
Alors justement, donc battu par Frazier en 1971, il sera battu également par un autre champion du monde, Norton.
Norton n'est pas champion du monde. Il est de l'écurie de Joe Frazier. Et Joey, qui détestait Ali, il détestait Ali parce que. Le costume d'Oncle Tom, ça, il trouvait ça odieux. Il ne sentait pas plus Oncle Tom qu'un autre, il faisait son boulot, et il n'a quasiment jamais pardonné à Ali cette distribution des rôles iniques. Et Norton recasse la mâchoire d'Ali, et Ali également, il termine là, vraiment défiguré.
Alors c'est là qu'intervient un homme très important à la fin de la carrière de Ali, c'est Don King. Hein. Quel était son rôle?
Don King, c'est un voyou, hein. C'est un bandit. C'est quelqu'un qui a tué un type à poing nu, hein, qui faisait 60 kilos de moins que lui, donc c'est pas sympathique. Et qui veut rentrer dans le boxing business. Alors il a deux boxeurs sous contrat, c'est Merritt et Ernie Shavers, qui était un bon quand même. Mais bon, il va débaucher Ali, et à partir de là, et du match dont on va parler, il va tenir le boxing business jusqu'à aujourd'hui, hein. Il se sert d'Ali, hein. Il se sert d'Ali pour devenir un patron du boxing business.
De même que vous l'avez dit, les Black Muslims se sont servis de lui. En fait, c'est un peu presque une marionnette entre les mains de beaucoup
c'est
de gens.
C'est un manipulateur que ce soit des intérêts
politiques ou financiers, parce qu'ils sont énormes les enjeux financiers de ces matchs. Bah, Patrice Ledorin.
Bon, en tout cas pour les Black Muslims qui ont pris un tiers au moins ou 33% de ses bourses. Bon, c'est une manne. C'était aussi une emblème. Formidable, on ne pouvait pas imaginer mieux. Là, on n'a pas tout à fait le temps, mais il y a eu le meurtre de Malcolm X qui fait que les Black Muslims aussi ont été très... leur aura a beaucoup décru dans l'opinion.
Mais pour ce qui concerne Don King, c'est lui, pourquoi est-ce qu'il est important? Parce que c'est lui qui va organiser, au fond, la reconquête de la couronne de champion du monde des poids lourds par Mohamed Ali, et qui va l'organiser dans un endroit inattendu, dans un pays ou sur un continent où on n'a jamais organisé de championnat du monde de poids lourds, c'est-à-dire en Afrique, au Zaïre. Pourquoi le Zaïre?
Moi, je crois que c'est tout le génie de Don King, parce que Ali était une vedette, une star énorme en Afrique, même si le Zaïre n'est pas un pays musulman. Et Foreman va être très déstabilisé.
Foreman, donc le tenant du titre
Foreman,
à ce moment-là.
Foreman oui. qui a assommé Joe Frazier, qui a pulvérisé Norton.
Oui, alors évidemment.
Donc,
oui.
De types qui avaient fait au moins jeu égal, qui sont à une victoire et une défaite avec Ali. Donc la logique voudrait que Ali n'existe pas. Il se trouve que là, il est dans un environnement extrêmement favorable, une population qui le tient pour un demi-dieu.
Qui lui crie « Ali Bomaillé, hein, Ali tue-le, Ali, hein, tue-le. Tue Foreman, tue son adversaire ».
Alors imaginez-vous à la place de Foreman, dans un stade avec 80 000 Zaïrois qui dit « tue-le », ça ne donne pas forcément envie de gagner non plus. Mais bon, il n'aimait pas trop la chaleur non plus Foreman, et en plus il s'était blessé, alors il est resté trop longtemps au Zaïre. Et Foreman, il a eu le temps de se démoraliser.
80 000 Zaïrois et 1 milliard de téléspectateurs, c'était le 30 octobre 1974.
62 000 spectateurs à Kinshasa, la capitale du Zaïre, 1 milliard de téléspectateurs dans le monde entier grâce au satellite The Rumble in the Jungle. La bataille dans la jungle oppose George Foreman, le tenant du titre, à Mohamed Ali.
Foreman qui vient de prendre une droite pointe du menton qui lui a fait très mal, une deuxième à la tempe.
Et une troisième.
Quatrième.
Oui, Foreman. Huitième reprise, Foreman KO et Mohamed Ali vainqueur de son 12e championnat du monde.
Voilà, Une fois, deux fois, pointe du menton, c'est cette droite qui fait la différence.
Et avec cette droite, Ali retrouve le titre mondial 10 ans et 8 mois après un premier sacre obtenu face à Sonny Liston.
Ali Bomaye, Ali Tulle, c'était donc la victoire de Mohamed Ali contre tous les pronostics sur Foreman. Donc il reconquiert son titre. Il va même le garder encore pendant 6 ans jusqu'en 1980. C'est l'apogée au fond de la carrière de Mohamed Ali.
Non. Oui, l'apogée 74, parce que 74. C'est une victoire de la stratégie. Il ne se déplace pas. Contrairement à ce que... Bon, au contraire, il se planque derrière ses gants. On dit que les cordes étaient un peu détendues. Et Foreman s'épuise à frapper. Ça peut paraître curieux, mais c'est vrai qu'avec la chaleur, avec le stress, Foreman, finalement, ne le descend pas. Et finit par connaître un coup de mou et puis se faire contrer. Bien sûr que c'est l'apogée, parce que c'était un comeback absolument improbable. Alors qu'évidemment, c'est un choc planétaire. Et là, Ali devient immortel. Le grand match d'Ali, enfin, le tournant, c'est le troisième phrasier à Manille. Là, c'est un combat où les deux hommes vont au seuil de la mort, au plus profond de leurs possibilités. Il y a comme une, c'est une rivalité où, on pourrait citer René Char, où il y a une sorte de fusion. Il y a une abolition des différents. Ils sont tous les deux au bout. Ils sont dans le même effort. Et Frazier est arrêté à la 15e reprise par Eddie Fuchs, son manager, qui veut sauver ses yeux. Et Ali s'évanouit. Et là c'est, je dirais, c'est le tournant, c'est-à-dire 75. Ferdi Pacheco, son médecin, lui dit qu'il faudrait s'arrêter.
Et il ne s'arrête
et
pas.
C'est
en même temps, c'est l'apogée. Et puis c'est en même temps, vous le montrez bien, Patrice Leloirin, vraiment la tragédie, d'ailleurs, qui guette beaucoup de boxeurs. Ça a été le cas de Liston, ça a été le cas plus tard de Tyson aussi. C'est vraiment assez pathétique, cette volonté de continuer jusqu'à ce qu'il soit battu, qu'il fasse le match de 3 en 1980 contre Larry Holmes. Et alors, on le voit. Alors là, il est battu, il perd sa couronne. Et on continue de le voir parce qu'il reste célèbre. C'est très émouvant. On le voit, par exemple, vous le rappelez, en 1988, pendant le match entre Larry Holmes et Mike Tyson. Il n'est plus sur le ring, Ali, mais tout le monde l'applaudit. On le voit aussi en 96, tout le monde s'en souvient, pour inaugurer les Jeux d'Atlanta. C'est assez extraordinaire, cet attachement, encore aujourd'hui, à Mohamed Ali, 27 ans après qu'il ait perdu son titre, Patrice Leloirin.
Oui, c'est un homme qui a su forger sa légende et qui reste très émouvant. Quand on...
Avec une maladie de Parkinson très visible, quand on l'a vu.
Oui, mais qui reste très digne, même dans la maladie. La tragédie, si vous voulez, il s'était moqué de Joe Louis. Ali, il avait dit Joe Louis est une poire, mais lui aussi il a duré trop longtemps. Et Holmes, qui l'a battu, lui a dit moi ça m'arrivera jamais.
Merci Patrice Leloirin. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre La légende de Mohamed Ali, qui vient de paraître dans une nouvelle édition à la Table Ronde dans la collection La Petite Vermillon. Vous êtes également l'auteur de 4 Uppercuts, un recueil de nouvelles publié à la Table Ronde. À lire aussi Mohamed Ali, un destin américain d'Alexis Filonenko aux éditions Bartillard. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Mohamed Ali, le plus grand, The Greatest, de William Klein, disponible en DVD chez Arte Vidéo. Mohamed Ali, King of the World, de Terence Howard, édité en DVD par Elephant Film. Boxer, disponible en cassette VHS chez Marshall Cavendish. Ainsi qu'une archive pâtée de 1965, édité en DVD aux éditions Montparnasse, dans la collection Le Journal de votre année. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Aurélie Fortin, Christophe Papon, Clarisse Le Gardien, Emmanuel Fournier et Claire Destacan et à notre réalisatrice Anne Comilac. Demain dans 2000 ans d'histoire, une histoire des perles.